mystère et le scandale de la souffrance. Un évêque disait, si j'avais su, je me serais tu, quand j'en parlais en chair avant. Et pourtant, on ne peut pas se taire devant cela pour deux raisons. D'abord, parce que Jean-Paul II nous a écrit un magnifique encyclique il y a de cela bientôt 20 ans, sur le sens chrétien de la souffrance. Oui, on peut dire quand même la réponse à tout ce scandale et ce mystère de la souffrance. Un académicien, Thierry Monnier, qui disait, il y a plusieurs grandes religions dans le monde, plusieurs grandes religions. Et toutes sont posées à la question de la souffrance. Toutes ont été confrontées à la question de la souffrance, mais il n'y en a qu'une seule qui peut se permettre de regarder la souffrance dans la prunelle des yeux. Parce que Dieu qu'elle proclame, ce n'est pas un Dieu qui ignore la souffrance, mais c'est un Dieu qui l'a vécu jusqu'au bout. C'est en raison de ce Dieu que nous annonçons, non pas en raison de nos théories à nous, non pas en raison de nos idées à nous, de nos réflexions à nous, mais en raison de ce Dieu qui a épousé la souffrance et qui l'a vécu jusqu'au bout, qu'on peut parler de cela. Comme disait Paul Claudel d'ailleurs par rapport à ça, il disait, voyez-vous, le Dieu auquel nous croyons n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, il est venu l'habiter de sa présence et lui donner un sens. Et c'est assez, dit Paul Claudel. Quand Jean-Paul II parle de cela, il sait de quoi il parle. Son secrétaire, Mgr Dzivitch, nous a donné il y a quelque temps en arrière le récit du mystère du sang versé sur la place Saint-Pierre à Rome. Souvenez-vous, c'est le 13 mai 1981. C'est donc le 13 mai à 17h17, le jour, le mois et l'heure exacte de la première apparition de Fatima. 17h17, c'était au moment même où Marie apparaissait pour la première fois à Fatima, le 13 mai 1917. À cette heure même, au jour anniversaire de 13 mai 1981, que Jean-Paul II reçoit deux balles dans l'abdomen et une autre dans le bras qui le traverse. Mgr Dzivitch dit qu'il y a eu un grand miracle, c'est qu'une balle peut traverser plusieurs corps. Et la balle qui a traversé le corps de Jean-Paul II, une des balles, une restée dedans, l'autre a traversé, est tombée, lui était juste derrière, il l'a ramassée et est tombée entre le pape et lui. Elle était par terre, au milieu, entre le pape et lui, alors que la puissance d'une balle peut traverser plusieurs corps. Alors, premier miracle, le Seigneur a arrêté les balles pour que personne d'autre ne soit blessé. Deuxième miracle, dit-il, que Jean-Paul II pria tout le temps qu'il était possible de prier, et qu'un médecin a témoigné par la suite, son jour de congé, et ce jour-là, dans son cœur, il y a une voix qui lui dit « pars vite à l'hôpital ». Alors il part à l'hôpital avec sa voiture, vous imaginez, un médecin, un professeur de médecine, le jour de congé, qui part à l'hôpital. En route, il allume la radio dans sa voiture et il entend que le pape a eu un attentat. Alors, il a mis sur les gaz, il a compris pourquoi le Seigneur l'avait appelé. Et c'est une question de minutes, mais de minutes. Il arrive là à l'hôpital et tout de suite, c'est lui qui prend en main les opérations pour l'opération. Le pape perd beaucoup de sang et on n'a pas de sang de réserve à l'hôpital du groupe sanguin du Saint-Père. Alors, coup de micro dans le haut-parleur. Et tous ceux qui ont le même groupe sanguin que le Saint-Père, venez vite. Alors il y a plusieurs médecins qui arrivent et qui donnent le sang, qui permettent de sauver la vie du Saint-Père, comme ça. L'opération commence, 5h30 d'opération. La première parole que dira le Saint-Père quand il se réveillera, se tourne vers son secrétaire qui était là à son chevet. Avons-nous déjà récité les complis? Puis la première parole du Saint-Père, à son réveil, après avoir reçu deux balles dans le cœur et après avoir passé 5h30 sur la table d'opération, perdu des litres de sang, eh bien, première parole, avons-nous déjà récité les complis? Alors il explique comment les miracles se sont produits les uns à la suite des autres. D'abord cette extraordinaire solidarité qui s'est produite, plus de 15 000 lettres qui sont arrivées dans les 2-3 jours qui ont suivi, de soutien, d'encouragement, de compassion au Saint-Père. Et puis le plus grand miracle qui s'est produit, c'est que le soir même à Rome était prévue une grande marche pour l'avortement dans la ville de Rome à l'appel du Parti communiste italien. Le secrétaire du Parti communiste italien a supprimé cette marche pour l'avortement ce soir-là. Voilà. C'est une première victoire et c'est un premier fruit extraordinaire du sang versé sur la place Saint-Pierre. Bon, il continue à raconter un petit peu les merveilles que Dieu a fait. À un moment donné, dit-il, la fièvre atteignit 40 degrés. Et ce matin, pendant plusieurs jours comme ça, le pape était tellement affaibli qu'il ne pouvait plus prier, plus réciter le bréviaire. Et on a pu découvrir un petit peu ce qui se passait. Le tournant s'est fait le 16 juillet, jour de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui marqua un tournant décisif de la maladie. On enregistra des améliorations des conditions générales. Le Saint-Père affronta avec une vitalité renouvelée les problèmes de chaque jour. Et le Saint-Père a donc décidé ce jour-là de se faire réopérer le 5 août. C'est le jour de Notre-Dame de Santa Maria Maggiore à Rome, la consécration de Notre-Dame des Neiges, comme ça. Et puis, dit-il, le 14 août, le Saint-Père a décidé de faire une veillée d'adoration en vue de la vigile du 15 août. C'est le 15 août, qui fut le premier jour où le pape se sentit complètement libre des médecins et put commencer à sortir de l'hôpital.